RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, c'est l'heure des grandes gueules en direct sur RMC, c'est la radio, RMC Story, c'est la télé, c'est sur le canal 23 de la TNT. Nous sommes avec vous jusqu'à midi, on vous attend au 32-16 pour discuter, pour débattre. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules.
Aujourd'hui dans les GG, Marianne Soubré, avocate, bonjour maître.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie, bonjour.
Bonjour à tous.
Stéphane Manigol, chef d'entreprise, restaurateur et de la partie aussi aujourd'hui, bonjour Stéphane.
Bien le bonjour.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Tout à l'heure, on parlera de tout ce bruit que l'on fait depuis quelques 24 heures, 48 heures autour de l'abaïa. Est-ce que c'est un simple effet de mode, une véritable atteinte à la laïcité? Là, depuis qu'on en parle, venez en discuter avec nous au GG, aux grandes gueules. En attendant, on va évoquer ce qui s'est passé à Dunkerque avec l'enlèvement de cette petite fille âgée de 8 ans.
RMC, les grandes gueules.
Ça se passe à Dunkerque avec une petite fille âgée de 8 ans qui a disparu dans la nuit de mardi à mercredi avec le dispositif alerte enlèvement qui a été déclenché.
Alors tout d'abord, il y a une mère de famille de 29 ans qui a été retrouvée décédée au domicile avec 3 des 4 enfants qui eux sont sains et saufs, mais un enfant était en revanche manquant, c'est une enfant manquante, elle a 8 ans. La victime, il faut quand même parler de la victime, portait des traces de strangulation ainsi que des hématomes. Elle a été découverte par sa mère, la grand-mère donc des enfants. Alors la petite fille âgée de 8 ans qui manquait à l'appel, elle s'appelle Malek Younes, il y a une alerte enlèvement qui a été lancée. Elle a les cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs. Elle a disparu. Ça se passe avenue de la Libération à Dunkerque, la nuit dernière. Elle est susceptible donc de se trouver avec son père, qui s'appelle Jamel, qui a 40 ans, qui est de nationalité tunisienne, qui est suspecté non seulement d'avoir tué sa mère, mais d'avoir enlevé sa propre fille. Il faut préciser que Malek est la belle-fille de la femme qui a été tuée, et la fille de l'homme recherché. Malek, sa maman, serait actuellement en Italie. C'est pas simple tout ça. Ce qui est assez accablant au départ de cette enquête, c'est qu'on apprend très vite que pour les voisins, finalement on s'y attendait. C'est-à-dire les voisins ne sont pas surpris. Pourquoi ? Parce que régulièrement ils appelaient la police. Il y avait, semble-t-il, des violences conjugales répétées. Elle avait d'ailleurs, la femme du suspect, porté plainte à 2 reprises en 2021 pour violences conjugales. D'ailleurs, encore mardi soir, les policiers étaient intervenus dans le domicile du couple pour altercation verbale. Donc on avait un contexte que tout le monde connaissait. Malheureusement, le drame est arrivé, on n'a pas pu l'empêcher. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est de récupérer cet enfant qui a été enlevé par son père.
Marianne Soubré.
Déjà un point sur l'alerte enlèvement, il faut savoir que normalement quand l'alerte est déclenchée, on est je crois à plus de 90% de réussite. Donc j'espère vraiment qu'encore une fois, comme la dernière alerte qui a été déclenchée, ça va bien se terminer pour cette petite fille. Mais on est encore une fois, j'ai envie de dire, on va en parler toutes les semaines, on va en parler tous les jours dans ces problèmes de violence conjugale, parce que c'est un fond de violence conjugale. La vérité, c'est que encore une fois, on est dans un féminicide. On est dans une histoire où les voisins, alors souvent les voisins, on leur reproche de ne pas avoir alerté, etc. Manifestement, les voisins ont appelé la police à plusieurs reprises. Manifestement, cette personne a appelé à l'aide elle-même puisqu'elle a déposé plainte. Et à chaque fois, moi, si tu veux, l'argument qu'on me renvoie, c'est de dire oui, mais cette femme, à partir du moment où elle se remet avec le conjoint violent, c'est un peu de sa faute. Bon, déjà, je rappelle que cette dame est morte. Et autre chose, je rappelle également qu'en termes de violence conjugale, il y a justement l'emprise et la peur.
Il y avait des enfants aussi.
Et qu'en plus, il y a des enfants. Est-ce que vous pouvez imaginer quand même que la grand-mère est entrée dans cet appartement, qu'elle a trouvé sa fille morte avec les 3 enfants
vivant à côté.
7 ans, 6 ans et quelques, ou 4 ans, et un petit bébé de 7 mois, qui était effectivement à côté, depuis combien de temps on ne le sait pas, mais à côté du cadavre de leur propre mère. Enfin, c'est quelque chose d'abominable. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on se rende compte que les violences conjugales, ça n'est pas quelque chose qui se passe entre 2 personnes derrière une porte. C'est un problème beaucoup plus grave, et ça implique aussi des enfants, et qu'à partir du moment où il y a des enfants, on doit vraiment, nécessairement, toujours intervenir. Ces enfants, ils auraient jamais dû être témoins de ça. Cet homme aurait dû être éloigné, aurait dû être emprisonné, et en tout cas, ces enfants n'auraient pas jamais dû assister au meurtre de leur mère, à l'assassinat peut-être même de leur mère. Donc,
il l'a tapé régulièrement. Voilà ce que dit une voisine qui avait elle-même pris le soin d'alerter les policiers.
Mais il aurait dû être en prison depuis longtemps.
Ou alors on aurait dû sortir la mère ou alors on aurait avec dû les enfants ou
aider la mère, parce qu'en fait le problème aussi c'est
les décisions de placement.
Voilà, ou... parfois il y a un problème économique aussi. Cette femme là peut-être, je ne sais pas du tout quelle
est
sa situation.
Pardon, mais excuse-moi.
Bien sûr,
comme ça,
on peut mettre le conjoint
dehors, mais c'est pas la mère de partir, elle a des enfants.
Mais bien sûr qu'on peut.
Qui, visiblement, elle s'occupe en plus de sa belle-fille. Enfin,
voilà. Bien sûr,
celle qui a été enlevée n'est pas sa fille.
Mais pour ça, il faut qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement aussi de la mère, et si elle est livrée à elle-même, et ben elle a pas les ressources nécessaires. Aussi bien morale que financière, pour se faire accompagner. Donc, il faut aider ces femmes-là avant qu'on en arrive à des drames pareils.
Le père n'est pas français, hein, il est nationalité tunisienne. Alors... D'ailleurs, il est peut-être parti, il est peut-être fui en Tunisie.
Oui, alors déjà, moi, il y a quelque chose qui me pose problème, c'est toujours la même histoire, ça se répète. On avait alerté, les voisins avaient alerté, ouais. Et il n'y a jamais rien eu. Il y a quand même ici une mise en danger de la vie d'autrui. On a alerté la police et rien ne s'est passé. Après, pour reprendre l'affaire en tant que telle, on est ici évidemment dans le cadre des violences conjugales avec des gamins qui en sont victimes. Moi, en tant qu'enseignant, je le vois au quotidien à quel point les enfants peuvent être une monnaie d'échange entre deux personnes d'un couple qui se disputent et qui s'affrontent. Alors ici, on rajoute à cela des violences conjugales, une mère qui était sans doute sous l'emprise, parce que Marianne a dit quelque chose de très juste, il y a l'emprise morale, il y a une forme d'emprise intellectuelle souvent, mais il y a une emprise économique, et si on ne se rend pas compte de ça, on ne réussira pas à résoudre les problèmes de violences conjugales. Regardez ce qu'ont fait par exemple nos voisins en Espagne, où on a mis beaucoup d'argent sur la table pour développer un système d'aide permettant aux femmes qui sont violentées de partir de leur foyer pour trouver une liberté économique et pour être à nouveau indépendantes. Donc la question des violences faites aux femmes doit quand même nous alerter, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de discours et des actes qui ne suivent pas. Donc certes, il y a des numéros qui ont été mis en place, il y a le fait par exemple qu'on sensibilise les policiers dans la prise de plainte, etc. Il y a des avancées, mais le nœud du problème, c'est quand même le nœud budgétaire. Tant que les femmes auront plus à perdre à sortir du couple qu'à y rester, quitte à s'en prendre plein la tronche, mais forcément, on n'arrivera pas à résoudre cette question.
Juste une parenthèse, éloigner le conjoint, parfois, ce n'est pas la bonne solution, parce que du coup, il sait toujours où elle habite. Parce que c'est ça aussi, ces femmes, elles ont peur. Donc parfois, il vaut mieux les aider à partir et à faire que le père ne sait même pas, enfin le conjoint ne sait même pas où elle habite. Et c'est parfois la meilleure solution. Parce qu'il y a à la fois le conjoint, mais il peut y avoir la famille. Et si on sait où tu habites, tu peux avoir tout le monde qui arrive.
C'était ce qu'avait mis en place le procureur de Douai, si je me souviens bien, il y a quelques années, où il avait été le premier à expérimenter ça. Il avait dit, en attendant qu'il y ait la décision judiciaire ou l'action judiciaire, il avait pris la décision lui-même de sortir la femme. Et de l'isoler, et il avait réquisitionné un ou deux hôtels, voilà. Justement pour pouvoir les mettre à l'abri. Stéphane Manigold.
Ben là se pose dans ce drame plusieurs questions. C'est la détection, et là effectivement le voisinage a alerté. Ensuite tu as ce qu'on appelle l'action sociale. J'ai été moi-même un enfant placé, parce qu'il y avait un contexte familial qui faisait que c'était plus possible, il fallait protéger l'enfant, les enfants. Et là, se pose la question de la déficience de la protection sociale de la petite enfance. Je rappelle quand même quelques chiffres. En France, il y a 300 000 enfants qui sont placés sous la protection sociale de la petite enfance. Dans ces 300 000, il y en a 160 000 qui sont placés dans des foyers. Quand on arrive à ce niveau de cas de figure, moi, je ne comprends pas comment les services sociaux, le juge de la petite enfance n'aient pas procédé à la protection d'entrée du mineur. Un enfant, ça, quand ça naît, ça ne demande rien. Ça attend tout, ça attend de la protection, ça attend de vivre sa vie d'enfant. Et certainement pas de vivre des drames absolument abominables qu'on vient de voir.
Ouais. Donc, et de rester des heures à côté du cadavre de leur mère.
C'est une vision d'horreur. Je ne sais pas ce qui me manque, en fait, pour que ces sujets soient pris en main. Je crois que le sujet de la petite enfance, en réalité, il n'est pris que quand il y a des faits divers, quand il y a des drames. Mais toute l'année, ce sont les grands oubliés de la République, ces enfants qui sont protégés, ces 300 000 enfants dont je parle, ces enfants de la riche Europe. Il y avait d'ailleurs Arte qui avait fait un reportage absolument formidable qui s'appelle « Ces enfants pauvres de la riche Europe ». Tous ceux dont on ne s'occupe pas. Mais on ne s'en occupe pas, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de parents qui votent. Donc électoralement, ça ne rapporte rien. En revanche, dès qu'il y a un drame, dès qu'il y a un fait divers, ben là on en parle, on se dit tiens, il y a peut-être des défaillances dans les services de santé, dans les services sociaux, dans les services de prévention, etc. Mais jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand on va continuer dans ces drames, dans ces faits divers qu'on va continuer à commenter sans pour autant régler à la base, avoir un meilleur accompagnement et protéger l'enfant? Évidemment, tu l'as dit Marianne, il faut protéger, isoler la mère. Enfin, il fallait le faire. Mais là, l'enfant, 8 ans, enfin, t'imagines, mais à 8 ans, tu as la mémoire quand t'as 2-3 ans à la limite. Ces faits-là qui sont dramatiques, tu t'en souviens pas. Mais à 8 ans, t'es en pleine construction. Comment cet enfant va se construire dans l'avenir, dans le. Enfin, c'est. Moi, je.
Il y a quatre enfants témoins, en fait, d'un assassinat. Non, mais c'est vrai que. Moi, je pense que si on devait améliorer quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans le traitement des femmes victimes de violences, il faudrait que, effectivement, directement, la police travaille directement avec les juges des enfants. Parce que c'est un contexte et parce que, c'est ce que je disais la dernière fois sur Mohamed Awas, un homme qui bat sa femme est un mauvais père. Voilà, à un moment, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
C'est une ordure.
Oui, non, mais.
C'est une ordure.
Non, mais souvent, on n'est que dans le rapport homme-femme. On dit c'est un couple, c'est leur histoire entre
eux. Non,
parce qu'autour, en fait, il y a des enfants. Et les enfants, effectivement, sont des victimes aussi, mais directes. Des violences, même quand ils ne sont pas frappés. Il suffit de voir leur mère frappée et ils sont victimes. Donc, il faut qu'on.
Non, mais là, dans cette histoire, c'est ce qui est un peu problématique, c'est que depuis qu'on a mis les féminicides un peu à la une de l'actualité, grande cause, gouvernement, mobilisation, Marine Schiappa, etc., on nous explique régulièrement le problème, c'est les femmes n'osent pas porter plaintes, on ne voit pas, il n'y a pas de signaux faibles, donc c'est compliqué d'intervenir. Là, il y a les voisins, il y a des plaintes, il y a au moins deux plaintes, c'est ce que nous disent nos confrères de BFM, deux plaintes en 2021, donc récemment, et il se passe rien. Et on nous explique en même temps qu'on a quand même beaucoup amélioré dans les commissariats, justement, l'écoute. Donc il y a des choses qui fonctionnent pas encore. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le discours officiel et la réalité du terrain. Ça ressemble d'ailleurs un peu à ce qui se passe avec le harcèlement scolaire où on nous explique c'est formidable, on a mis en place des équipes dédiées, etc. Puis on voit bien que quand même les défaillances sont toujours là sur le terrain.
Nous sommes avec Yasmine qui nous appelle de Paris. Bonjour Yasmine.
Bonjour toute l'équipe, merci de me recevoir.
Je vous en prie. Comment réagissez-vous? Parce que vous avez tout de suite appelé le 32-16, ça vous touche de près cette histoire.
Ouais, en fait, je vais juste vous dire la vérité. Là, j'appelle pour vous dire à quel point j'en suis arrivée. Moi, ça m'est arrivé personnellement et là, je vous appelle sous pseudo. Je vous appelle sous pseudo parce que j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai vécu ça il y a 10 ans, pendant 3 ans. Et pour vous dire, je suis encore très très émue de ça. J'étais avec quelqu'un où c'était une emprise psychologique pendant très très longtemps. J'ai été, toutes mes amies, tout le monde autour de moi me disait ça va mal se terminer, Linda, ça va mal. Enfin, ben voilà, je me suis vendue. Ça va mal se terminer. Et en fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que quand vous êtes sous emprise, même si vous avez votre entourage, et moi c'était une emprise émotionnelle parce que j'avais un travail, etc. Donc c'était pas du tout financier, économique. Mais ça existe effectivement, et je pense que c'est encore pire. On a vu le cas notamment de la femme du joueur de rugby, qui en fait, quand vous la voyez en train de parler à la télé, vous sentez qu'en fait, juste, elle a très peur de perdre malheureusement tout ce qu'elle a, parce que c'est ce qu'elle a construit avec lui et qu'aujourd'hui, je pense que c'est lui qui ramène tous les fonds à la maison. Oui. Et ça en est triste parce que la vidéo, elle est quand même révélatrice. Elle m'a choquée personnellement. Elle se retrouve à terre, il lui met un shoot dedans. Et quand vous êtes sous emprise, on a beau vous répéter que ça va mal se terminer. Moi, je me suis vue dire. Non, mais vous vous rendez pas compte parfois comment je lui parle. C'est vrai que parfois je l'énerve, je le pousse à bout. Alors du coup, et là vous vous dites.
Syndrome de Stockholm.
Et là vous vous dites, enfin, moi je me le disais pas au moment. Moi, ce qui m'a fait le déclencheur en fait, comment je suis partie, c'est pas mes amis, c'est pas tout ça. C'est que je me suis retrouvée à terre dans mon salon. Il était à califourchon sur moi, il m'avait mis deux grosses gifles et il m'a dit, tu vois, tu fais de la boxe et t'es même pas capable de me faire. Moi, si j'avais été toi, je me serais fait un gauche-droite crochet, mais même ça, t'en es pas capable. Et je me suis dit, attends, ma grande, t'as fait des études. T'as été à l'école.
Vrai pervers.
T'as des parents qui t'ont jamais, qui t'ont éduqué, mais qui t'ont jamais mis à terre comme ça. Et là, t'es en train de te faire violenter depuis 3 ans psychologiquement. Et là, on en arrive au physique. Jusqu'où ça va aller? Et là, je me suis réveillée. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette chance et cette opportunité.
Et vous étiez frappée régulièrement,
non,
Yasmine.
Non, j'ai pas frappée régulièrement. J'ai été violentée psychologiquement. J'ai eu le droit à tout. T'es qu'une pute. De toute façon, si je suis pas là, tu n'existes pas.
Personne n'aura de toi.
tu ne sers à rien, etc.
Et comment en fait, vous dites, je me suis réveillé, ça veut dire concrètement, vous avez fait quoi? Vous avez pris vos affaires, vous êtes parti?
Ah oui, j'ai pris mes affaires et je suis parti.
Il y avait des enfants.
Comme ça, du jour au lendemain.
Pas d'enfants. Mais est-ce que tu te rends compte quand même que le
non, mais pardon, mais il faut du courage, rien que pour ça.
Justement, le témoignage de Yasmine, il est.
Merci.
À la fois, bravo, vous en êtes.
La chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas d'enfant avec cette personne et que c'était quelque chose qu'on envisageait. Et c'est ma grande, grande chance. Ma grande, grande chance. Ouais. Et j'ai perdu 3 ans, entre guillemets, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ça a été 3 ans de ma vie, de mes 27 ans à mes 30 ans, qui ont été très compliqués. Mais aujourd'hui, si je peux aider, je le fais du mieux que je peux. Parce que
quelles sont vos relations avec, si je peux me permettre, c'est avec les hommes maintenant? Est-ce que vous.
Aujourd'hui, les conséquences aujourd'hui de ça je suis maman d'une petite fille qui a 4 mois.
Ah oui.
J'ai refait ma vie avec quelqu'un d'incroyablement bienveillant. Il a beaucoup mangé, le pauvre, pour celui qui était passé avant. Parce que j'étais très très méfiante, ouais. Mais après ça, vous apprenez aussi à détecter les signaux.
Vous êtes servi de ça, oui.
Mmh. Mais là, ce qui
vous êtes servi de ça, vous avez tiré les leçons.
Ah bien sûr, j'ai tiré les leçons, et c'est surtout que j'ai eu après cette personne des relations qui étaient toxiques, et c'est là que j'ai compris que j'avais pas complètement guéri, et puis il est arrivé après, et là je me suis dit, ok, là il y a quelqu'un de gentil, il faut accepter la gentillesse en fait.
Yasmine, tout votre entourage voyait ce qui se passait dans votre couple?
C'est ça le plus triste, et j'ai des messages encore que j'ai gardés de copines qui me disaient à l'époque... S'il te plaît, je t'en supplie, je pleure pour toi, réveille-toi, je t'en supplie. Et j'ai des textos de lui avec des visuels d'armes me disant continue à parler de moi et tu vas voir comment ça va se terminer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore peur de parler parce qu'il a mon adresse mail et qu'il m'envoie encore des mails et je vous parle d'une histoire. J'ai 37 ans aujourd'hui. C'est juste pour vous dire.
Pourtant, il y a un moment.
Vous avez porté plainte contre lui?
Non, j'ai jamais porté plainte parce que j'ai toujours eu très peur.
Oui, mais en fait, en plus, pendant très longtemps, on a considéré que les violences psychologiques n'étaient pas des violences.
Exactement.
Heureusement, aujourd'hui, on comprend, en fait, dans les violences sur conjoint, les violences psychologiques, parce que
une étape avant la violence physique.
Non, parfois, il se trouve qu'à un moment, il s'est mis à la. Mais tu sais, c'est aussi grave, en fait, parce que on perd toute estime de soi, et quand t'entends toute la journée que tu vaux rien,
Une salope, que sans lui, vous n'êtes rien, et que personne ne voudra de vous à jamais, donc il vaut mieux rester avec lui, parce que, honnêtement, il vous tire vers le haut. À la fin, vous finissez par y croire. Je sais que ça paraît fou.
Bien sûr.
Et je vous jure que oui.
Ouais, bien sûr. Oui.
Yasmine, je vous remercie de ce témoignage. Merci d'avoir parlé en toute liberté, en toute franchise. Et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci d'avoir été avec nous, Yasmine. Dans un instant, on sera justement à Dunkerque avec Lucille Pascanet, l'envoyée spéciale d'RMC. Depuis qu'elle est arrivée à Dunkerque, elle va nous l'expliquer, mais tous les gens qu'elle a rencontrés autour du quartier... Tous disent, cette femme était cognée, frappée, les policiers venaient régulièrement, ils comprennent pas pourquoi on en est arrivé là. Allez, à tout de suite.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Kevin Bossuet, Marianne Soubré, avec Stéphane Manigold. On évoque l'enlèvement de cette fillette à Dunkerque par le père et la mère qui a été tué par le père très vraisemblablement. Attention, faut être prudent, mais c'est le suspect numéro 1. Il y a un dispositif alerte enlèvement. Le problème dans cette histoire, c'est que on a un contexte qui était connu des voisins de la police avec une femme qui était frappée. C'est Lucille Pascanet d'RMC qui est sur place à Dunkerque pour nous. Bonjour Lucille. À travers l'enquête que tu as pu mener là dans le voisinage, les témoignages sont accablants, Lucille.
Oui, les témoignages sont vraiment accablants. On nous parle d'une personne violente qui faisait peur, que les voisines, on a croisé plusieurs voisines, n'aimaient pas croiser. On nous dit que quand elles ont appris le dispositif d'alerte enlèvement et ce qui s'était passé il y a 2 jours dans ce quartier, tout de suite, elles ont pensé à cet homme. Certaines racontent qu'il s'isolait dans les caves pour boire de l'alcool, qu'il entretenait des mauvaises relations avec ses voisins, qu'il empêchait, par exemple, à ses enfants de dire bonjour aux autres personnes dans la rue, et surtout toutes parlent de scènes de violence récurrentes envers sa compagne. La police était souvent appelée, elle avait déjà déposé 2 plaintes en juin et en octobre 2021. Tous décrivent des cris, des scènes de disputes vraiment très régulières et très fréquentes, et surtout très violentes.
Merci Lucille Pascanet en direct de Dunkerque pour RMC, Stéphane Manigold.
C'est ce qui est terrible dans ce cas, hélas, et dans près de 3 millions de cas chaque année en France, c'est que tu as 3 millions de délits condamnables sur le plan pénal, où la justice n'est pas en capacité d'absorber ces plaintes et de les traiter. Et donc, il y a 3 millions de plaintes qui ne sont pas traitées chaque année. Voilà aussi l'état de la justice française. Elle est en manque de moyens. On parlait tout à l'heure du manque de moyens des services sociaux, des éducateurs qui sont souvent démunis face à ces situations. Mais la justice elle-même est complètement dépassée. Elle n'a pas assez de greffiers, de juges.
Marie-Anne Souhait, avant d'écouter le témoignage de Cathy qui nous appelle des Yvelines.
Non, mais on va être clair, et Kevin l'a dit très clairement. Un jour, l'Espagne en a eu marre. Ils ont mis 1 milliard d'euros sur la table. 1 milliard d'euros. Et ils ont dit, maintenant, c'est terminé. Et ce milliard d'euros, il a servi à aider les femmes, effectivement, à se reloger, à juger plus vite, et aussi à l'éducation des garçons et des filles, parce que, et depuis la maternelle, c'est-à-dire dès la maternelle, on apprend l'égalité homme-femme, etc., etc. Et tout ça, si tu veux, tant qu'on l'aura pas fait, on pourra dire, ah oui, grande cause nationale, etc. Il y a toujours aujourd'hui des femmes qui meurent, il y a toujours aujourd'hui des enfants qui sont les témoins directs de ces violences, parce que la France fait semblant. La France, désolée, la France ne fait pas ce qu'elle devrait faire.
Mais on veut toujours mettre de l'argent, c'est toujours un peu la réponse facile quand il y a un problème. Ah oui, mais vous savez, on n'a pas de soucis. Je suis désolé, mais dans cette histoire, il y avait déjà deux plaintes. Les policiers avaient été sur place. C'est pas une question d'argent.
Mais
c'est
une question. Non.
C'est une question de volonté. C'est une question de prise.
Et d'argent.
Oui, non, mais ça, c'est toujours la réponse
et
très
des
simple.
Équipes,
ah, vous avez vu, il y a ça. Ah bah oui, parce que normal, il y a pas d'argent dans un pays.
Non,
qui dépense sans compter de l'argent.
Non, c'est pas vrai.
Non, mais il y a beaucoup d'argent partout.
En Espagne, à partir du moment où on dit violence conjugale, tu as un processus qui se met en route.
Oui, avec les bracelets.
Il n'y a pas de processus ici. Non.
C'est une question de volonté.
Olivier.
Il n'y a pas de volonté
Olivier,
de faire ça. On l'a vu dans cette histoire précise.
Il n'y a pas en France de processus organisé, institutionnalisé, qui dit quand la femme dénonce des violences, on la prend, on la reloge immédiatement.
Si, ça existe.
Non, ça n'existe
dans
pas
les
de
villes,
façon
les régions,
automatique. Il n'y a pas un processus automatique.
Là, il
n'y
a pas besoin
de
processus automatique.
Mais
la police était sur place.
Mais
moi, je sais, je t'adore, Marianne, mais c'est toujours la même chose. Il y a un problème, on manque d'argent dans un pays.
Non, on manque de volonté. On manque de volonté politique.
Volonté politique.
Eh ben oui, mais ça va avec l'argent.
Non.
Quand tu mets un milliard, regarde, je suis désolée.
Là, Marianne, soyons concrets. Les policiers interviennent, elles portent plainte deux fois.
Oui.
Bon, les policiers viennent chez elles. C'est pas une question d'argent.
Mais si tu ne prends pas en compte en même temps le relogement, le soutien financier et psychologique de cette personne-là.
C'est un étranger, il est tunisien.
Mais alors, il a peut-être des papiers. Qu'est-ce que t'en sais? Il est un étranger, il est tunisien. Qu'est-ce que t'en sais? Je n'en sais rien, moi.
Si, on sait qu'il est étranger. On sait qu'il est tunisien. On va voir quelle est sa situation.
Non, mais attends.
À un moment donné, il faut.
Attends, Marianne, juste un truc.
On applique les lois.
Attends, Kevin est l'avocate. Les agresseurs du petit-neveu Trogneux, ils ont été jugés en comparution immédiate, hyper rapidement.
Voilà,
ce type, il a deux plaintes, il cogne quasiment tous les jours.
C'est pas une question d'argent.
Tous les jours sur sa femme. Vraiment, je t'interpelle. Est-ce que le magistrat, le parquet, peut pas dire on a un cas d'urgence.
En fait, ce qu'il y a de terrible, c'est que vous entendez pas ce que je suis en train de vous dire.
L'argent,
ça sert à organiser effectivement, parce que effectivement cette personne-là aurait dû être jugée depuis longtemps, mais ça sert à organiser tout un système et toutes les structures en fait de protection de ces femmes-là.
Mais
parce que
le mec,
il n'est pas condamné à vie. Donc le mec, quand il sort, elle est toujours au même endroit.
Non, mais
d'accord, mais quand il sort, elle est toujours au même endroit. Et donc il revient et il la refrappe. Tant qu'on n'aura pas mis en place une vraie volonté et qu'on n'aura pas mis tout ce pognon sur la table, on en sera toujours au même niveau.
Non, mais
voilà.
Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de volonté. Quand vous avez une femme battue qui va porter plainte deux fois, qui continue à subir le même sort sans que personne ne fasse rien, alors que les voisins avaient alerté. Mais que fait la police? Que fait l'État? Pour le coup, si on parle d'argent, où vont mes impôts? Parce que moi, si je paye des impôts, c'est aussi pour faire en sorte que ce genre de cas n'arrive évidemment pas. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Regardez quand ce sont les personnes qui ont des problèmes psychiatriques qui commettent l'irréparable. Il y a toujours, mais on avait prévenu, avait dit, personne n'a bougé, la police n'a pas bougé. Moi, j'ai l'impression que dans cette société, on tend à jouer à la facilité et dès qu'il y a un problème concret, on ne veut pas le résoudre. Et quand on ne résout pas les problèmes, on tend à les banaliser et à la fin, on tend à les accepter. Donc, le problème des violences conjugales, c'est d'abord avant tout un problème de volonté.
Oui.
Cathy, bonjour.
Oui.
Bonjour Cathy, vous aussi vous vouliez réagir comme Yasmine il y a quelques minutes avec nous. Cathy, dites-nous.
Alors moi, j'étais dans une situation un peu compliquée aussi, parce que j'avais un enfant qui avait à peine un an, et j'étais enceinte de deuxième. Quand le problème a commencé, j'ai été frappée en étant enceinte. Et malgré le suivi d'une assistante sociale et tout ça, moi, je ne me suis pas laissée un peu faire. Donc, je l'ai foutu dehors, carrément.
C'est bien.
Et après, le souci, c'est que comme j'étais en congé parental, ouais. J'avais pas trop le moyen.
Voilà.
Donc, j'avais l'assistante sociale, mais ça ne me servait à rien. J'ai été foutu dehors de mon appartement avec mon enfant. En étant enceinte.
Désolée. Non, je vous en prie, c'est compliqué, bien sûr, à raconter, c'est douloureux pour vous.
On n'a jamais trouvé un appartement.
Comment vous vous êtes débrouillé du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Grâce à des amis, heureusement. J'avais quelques amis qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. La famille. Ouais. Même malgré que c'était dans un autre pays, parce que je ne suis pas française, donc. Et j'ai retrouvé un peu dans mon pays. Et après, je suis venue parce que monsieur, il savait où j'étais. Voilà. Il a osé dire à la police que j'avais enlevé l'enfant. Et donc, j'étais menacée. Je suis revenue, on m'a retiré les enfants pour le donner à lui. Et pendant 2 ans,
ouais.
Parce que c'est tombé dans l'époque de Covid, il avait la garde, j'avais droit que au week-end et aux vacances scolaires.
Mais vous avez été violentée aussi, frappée par cet homme?
Tout à fait. Il m'a frappée quelques fois. Après, c'était de la violence psychologique. Ouais. Il utilisait les enfants pour m'atteindre.
Et vous aviez, et quand vous en parliez autour de vous...
Oui, j'ai porté plainte, mais j'ai montré les messages aux policiers. Il y en avait certains qui ont ri, prenaient la plainte, mais genre, bref, ça, on peut classer, quoi. Il y en a une fois, qui a refusé de la prendre. J'ai été obligée à y aller au commissariat de Versailles, qui est quand même loin de chez moi. Et c'est là-bas qu'une gentille dame, une gentille gendarme me l'a fait.
Et aujourd'hui, vous en êtes sortie complètement, Cathy?
Heureusement, je me suis sortie. J'ai fait les démarches pour le tribunal et tout ça. J'ai la garde des enfants, mais c'est dur parce que malgré que vous avez les assistantes sociales et tout ça, malgré que vous avez les enfants, ils vous disent oui, vous êtes propriétaire, mais j'ai jamais eu d'appartement pour moi et mes enfants. J'ai réussi à me sortir toute seule avec mon boulot. Et c'est compliqué parce que la plupart de fois, vous allez à la police, mais en fait, rien ne se passe.
Ouais, c'est ça.
Quand je parlais de processus institutionnalisé, c'était justement ça. Ce qui a été mis en place en Espagne aussi, c'est des appartements réservés pour ces femmes-là. Et tout ça, ça n'existe pas en France. Il n'y a pas d'appartements réservés.
Non.
Je veux bien, mais j'entends que tu connais par cœur. Je viens juste de faire une petite recherche à Dunkerque. Il existe.
Mais je te parle de processus
je
national.
Je parle de Dunkerque. Là où il y a eu le drame.
Est-ce que vous entendez que depuis tout à l'heure,
oui,
je parle de l'Espagne?
Mais est-ce que je peux finir ma phrase?
On l'a
compris. J'ai compris. Je l'ai entendu. Toi, tu parles d'Espagne. Moi, je parle de Dunkerque où il y a eu le drame.
Moi, je te parle de la France. Je te parle pas de
Dunkerque. Mais
Dunkerque,
c'est en France. C'est là où on parle du drame, c'est l'actualité. Il y a le CIDF qui vous informe.
Oui, CIDF, le Centre d'information de défense des droits des femmes.
S'il te plaît, Marianne. Oui. Ça a été créé tu parles de moyens. Le CIDF,
oui.
C'est Northland, c'est un acteur de la politique publique d'information sur le droit des femmes et des familles, de la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes.
Les moyens sont mal utilisés.
Ça a été créé en 1980.
Mais c'est national, comme tu me parles d'un truc national.
Mais que font dans ce cas-là, si tu parles d'argent public? Que font ces associations lorsque toute une ville, tout un quartier, on peut valablement se poser la question, lorsque tout un quartier...
C'est un centre d'information et de soutien et de solidarité. Mais tu parles d'un truc que tu ne connais pas, Stéphane.
Mais écoute le témoignage de cette femme.
Je te parle d'un dispositif national.
On ferme toutes ces associations, elles ne servent à rien.
Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
Elles ne servent à rien.
Je vous explique depuis tout à l'heure que l'Espagne a mis en place... Mais la France doit faire pareil.
Non, mais non. Il faut écouter...
Ville par ville.
D'accord, on a compris.
c'est une nation toute entière. Et le CIDFF, si tu veux, ça
le guide
dans
tout. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Cathy? Je vais au commissariat, on rit de moi. Est-ce que c'est une question de moyens? Non, c'est des questions de responsabilité. Dans ce pays, arrêtons toujours de dire c'est parce qu'il n'y a pas de moyens qu'il y a des problèmes. Les lois sont là, elles peuvent être très dures. On peut condamner très durement ces gens.
Les lois sont pas là.
Ce type aurait pu être condamné, aurait pu être jugé.
Quand il a deux places, il cogne tous les jours.
Ça va.
Mais oui, mais voilà. Merci,
c'est pas de responsabiliser tout le monde de dire qu'il n'y a pas de moyens.
Cathy, je vous remercie de ces témoignages comme Yasmine, difficile
les,
pour
les,
vous.
Les policiers, il faudra les interroger, leur demander pourquoi ils n'ont pas
intervenu. Y compris les associations.
Et juste un petit truc rapide.
Kevin, le mot de la fin.
La question des violences conjugales ne concerne pas que les femmes. Il y a des hommes battus, il y a des hommes qui sont harcelés par leurs femmes. Il faut aussi le dire. Ce n'est pas qu'une question de domination homme-femme.
Oui, mais ils sont très minoritaires, il faut aussi le dire.
Aussi.
Merci à Yasmine, merci à Cathy d'avoir livré leur témoignage. Vraiment en toute franchise, avec toute l'émotion qu'elle pouvait ressentir.
Bon courage à Cathy.
Dans un instant, on s'en fout pas, avec Kylian Mbappé et Yannick Noah.
Un peu légèreté.
Originaire d'autres
pays. Allez, on va un peu s'amuser là.
Merci Carole Delga.
La bourre de Madame Delga. Attendez, écoutez bien. Les 18-25 ans
qui
ne font plus l'amour, qui à 43% sont abstinents,
bah,
qui prennent des bonbons bleus. Pauvre Franc.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec le chef d'entreprise, restaurateur Stéphane Manigold, l'enseignant d'histoire géographie Kevin Bossuet, l'avocate Marianne Soubré. Quelle heure est-il? 10h moins le quart. Alors on s'en fout pas de ce que veut dire Anaïs.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les parents de la petite Lindsay, l'adolescente qui s'est suicidée après avoir été victime de harcèlement, ont rencontré Brigitte Macron hier. Un échange au cours duquel ils se sont sentis entendus et soutenus par la Première Dame, à la différence de leur rencontre lundi avec le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Écoutez.
On a été reçus très très bien. J'ai été entendue, soutenue. Chez le ministre, aucune sincérité. C'était surjoué. Voilà.
Donc une première dame plus à l'écoute finalement que le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Kevin?
On s'en fout pas.
Marianne?
On s'en fout pas.
Stéphane?
On s'en fout pas.
Kevin?
Non, moi je trouve important que les Français aient été entendus. Et si on sort de ce cas précis, il faut vraiment alerter sur le harcèlement scolaire. Ça touche 10% des élèves tous les ans, entre 800 000 et 1 million d'élèves. Et c'est vraiment un problème dans nos établissements. Donc il faut étendre le programme phare, il faut sensibiliser les enseignants, parce qu'il n'est pas normal qu'un élève arrive à l'école la boule au ventre. Il faut savoir que un quart des élèves qui sont en échec scolaire le sont parce qu'ils sont harcelés. Donc faisons vraiment de la lutte contre le harcèlement une cause nationale, mais vraiment, parce qu'on en parle beaucoup. Et sur le terrain, parfois il y a des choses, mais c'est pas suffisant.
Marianne?
On s'en fout pas parce que c'est très malheureux à dire, mais en fait, il y a une inversion des rôles.
Bah oui,
c'est-à-dire que Pap Ndiaye, qui est le ministre de l'Éducation, aurait dû faire preuve d'écoute, etc.
D'empathie.
D'empathie. Brigitte Macron, avec tout le respect que je lui dois.
Donc c'est le combat. Hein.
Moi, j'ai toujours pensé. Oui, c'est un de ses combats, d'accord, mais moi, j'ai toujours pensé que la femme du président ne devait pas avoir de rôle. Donc voilà. Et voilà, c'est juste la femme du président, c'est tout. C'est le président qui a été élu. Mais donc, il y a un vrai problème. Moi, je m'en fous pas parce qu'il y a un vrai problème, parce qu'elle a. Tant mieux d'ailleurs si elle l'a fait, hein. Je ne vais pas lui reprocher non plus d'avoir été empathique avec ces personnes qui vivent un drame. Mais en réalité, c'est le ministre qui aurait dû se comporter comme ça.
S'il faut renvoyer la femme du président à son rôle de femme. Je crois qu'elle a un rôle à jouer, tout simplement.
Bah, je ne vois pas pourquoi.
Elle le fait depuis des décennies, avant d'être femme du président de la République. Elle avait déjà ses actions dans les théâtres, de l'insertion, etc.
Oui, mais là, donc, le sujet est politique, pour le coup.
Mais on peut... Non, on peut pas tout politiser. Enfin,
bah, c'est la femme du président.
Ah, peut-être. Ce qui est un peu gênant, c'est que finalement, le ministre retrouve en porte-à-faux. Le ministre retrouve en porte-à-faux.
Donc en gros,
on va voir Brigitte.
Ministre,
Brigitte nous entend. Elle dit qu'elle va faire plein de choses, c'est formidable. Et le ministre, excusez-moi, il passe pour un imbécile un peu dans
les GG. Je regrette de m'être mal exprimée. Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, qui a provoqué un tollé à gauche après ses propos confus hier matin sur France Info. Elle s'est donc excusée. Propos sur l'immigration, Carole Delga a complètement perdu pied dans des explications un petit peu douteuses. Écoutez.
On doit arrêter de véhiculer cette image d'une immigration qui ne représente qu'une menace. L'immigration, c'est une richesse pour la France. Qui c'est qui a fait fonctionner les hôpitaux, les maisons de retraite pendant la crise de Covid? Il y avait beaucoup d'immigrés. C'est qui les personnalités préférées des Français? C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noah.
Ce sont des Français, ce sont des Français. Attention, il y a une différence.
Pardon?
Ce sont des Français.
Oui, non, mais tout à fait, mais ils sont vraiment originaires d'autres pays. Ce sont les fruits de l'immigration.
Mbappé, il est né en France.
Non, mais c'est leurs parents, ces personnes que je vous cite, ne sont pas.
La mère de Kylian Mbappé est née en France.
Je ne pense pas.
Mais d'origine.
Mbappé, Noah, okay. Donc ils sont français, mais ils sont originaires d'autres pays. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Marianne?
On s'en fout pas.
Kevin?
On s'en fout.
Stéphane?
Non, on s'en fout pas.
Marianne?
On s'en fout pas parce qu'en fait là on est vraiment, on devrait remonter à des générations de générations, savoir si on est français pas français. Je rappelle quand même que en plus du point de vue strictement du droit, en fait, aussi bien Yannick Noah que Kylian Mbappé sont nés de mères françaises. Ils sont français par le sang, donc ça a rien à voir. Ils seraient nés, qu'ils soient nés en France ou qu'ils soient nés au bout du monde, ils auraient toujours été français. Donc ça aurait toujours été des exemples à montrer pour la France. Ils n'ont rien à voir en fait. Si on veut citer un immigré qui a réussi, citons Manuel Valls. D'ailleurs, voilà, un exemple de l'immigration, Manuel Valls.
Bah moi français du coup que Mbappé.
Mais bien sûr après, qu'il est beaucoup moins français, il est naturalisé. Alors que Mbappé et Noah sont nés français.
Donc elle a fait une confusion
après,
là.
Après pardon, mais Cordelga, la pauvre, elle coule en direct, hein, elle se noie en direct.
C'est le Titanic.
Mais la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon notamment, qui derrière font un procès en la traitant de raciste. Enfin, je pense que Cordelga n'est pas raciste.
Ah bon, non,
c'est maladroit, c'est idiot. Mais derrière, il y a des règlements de compte à gauche qui sont aussi ridicules. Vraiment, je vous conseille de revoir les réactions de notamment de Mélenchon qui s'est emparé de cette histoire. D'ailleurs, Mélenchon, il se passe sa vie sur Twitter, là, puis tweet. Et la pauvre Delga, pour des règlements de compte entre la gauche non NUPES et la gauche NUPES.
La gauche Cazeneuve.
Non, mais il a dit qu'il s'en foutait.
Stéphane, pardon.
Calmez-vous.
Si tu veux, je suis né en 1980 et j'ai l'impression que certaines personnes, malheureusement, c'est maladroit ce qu'a dit Cordelga et personne ne pourra dire que Cordelga est raciste. C'est faux. Mais c'est maladroit parce que tu as l'impression d'entendre cette France des années, c'est cette gauche des années 80, dès qu'elle voyait quelqu'un de couleur considérait que l'immigration c'était formidable, c'était une chance, etc. Mais non, une personne de couleur, c'est pas forcément. Et je pense que c'est dans son esprit, c'est là où elle allait en fait. Hein. Elle était dans la couleur. Et c'est terrible. Elle rétropédale, elle se rend compte de sa connerie. Et...
Elle enfin, l'a mis leurs parents.
Limite à la journaliste, limite à la journaliste, elle aurait pu dire. Et vous d'ailleurs,
tu vois, c'est
ça. Les GG. C'est un drame.
C'est terrible.
Les jeunes ne font plus l'amour. Voilà. C'est l'enquête du Point ce matin. La jeunesse en panne de libido. Entre angoisse existentielle, puritanisme, concurrence des réseaux sociaux et porno sur Internet, le désir se délite. Écrit l'hebdomadaire. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Marianne?
Ah non, on s'en fout pas.
Kevin?
On s'en fout pas.
Stéphane.
Ah, on s'en fout pas, et en plus je suis content moi.
Kevin.
Non mais c'est révélateur de ce qui est en train de se passer dans la jeunesse. Tout d'abord, il y a un retour du puritanisme, il y a un retour de la pudeur sur fond de progression des enjeux religieux. Et moi je le vois au quotidien avec les élèves, il y a quand même une remise en cause de l'héritage 68art, il est interdit d'interdire, ça c'est quand même quelque chose qui est présent. Après il y a un autre processus, c'est le monde de la virtualité où les jeunes consomment de plus en plus de pornographie sur Internet. Oui, c'est et c'est vrai, ont une approche des autres qui est moins tactile, avec une absence d'empathie, avec l'autre est vu finalement comme une menace. Donc c'est les deux phénomènes qui coagulent et qui produisent en effet ce genre de choses. Et ajoutons également la peur du lendemain, ce qui fait qu'on va moins faire d'enfants, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un enfant, il faut quand même beaucoup de courage.
Il faut faire l'amour et faire un enfant, c'est deux choses différentes hein, quand même.
C'est vrai, mais on peut l'ajouter aussi.
Ils font des enfants grâce à la PMA.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps, il y a plusieurs années, on avait un gynécologue qui était venu, je ne me souviens plus de son nom malheureusement, qui était venu ici témoigner du fait qu'il y avait des lésions même sur les jeunes qui étaient absolument anormales sur les organes sexuels, parce qu'en réalité, ils ont une approche de la sexualité qui est pornographique. numérique et donc ils ne savent plus du tout ce que c'est que faire l'amour. En fait, j'ai envie de dire, ce qu'il y a aussi, c'est que non, mais le problème, c'est que tu vois des choses qui sont d'une extrême violence, qui sont complètement déconnectées de la réalité des choses. Entre la pornographie et faire l'amour, ben il y a un monde, il y a vraiment un monde. Et moi, je pense que le problème, au-delà du fait qu'effectivement il y a un retour du puritanisme, je pense que le problème il est là aussi. C'est qu'il faut que nous apprenions, parce que cette génération c'est celle de nos enfants, il faut que nous leur apprenions que la pornographie n'a strictement rien à voir avec le rapport sexuel normal, consenti qu'on a avec son partenaire.
C'est quoi l'âge que tu citais?
L'âge,
la tranche d'âge.
J'ai pas du tout.
Alors nous, les quarantenaires et les cinquantenaires, il n'y a pas de preuve. Hein, nous,
on veut pas savoir,
pas
Stéphane.
Sujet, nous, hein.
Nous, on...
Voilà, on y va, quoi.
On reste vaillant. Non, mais moi, on reste vaillant.
Sociologiquement, c'est très intéressant. C'est qu'il y a eu cette génération... qui était d'ailleurs plutôt moi la génération de mes parents 68 ans entre guillemets, ou au contraire c'était jouir sans entrave, libération des corps, on fait ce qu'on veut, etc. On fait l'amour et c'est pas lié à fait d'avoir des enfants. Et on est passé maintenant cette génération un peu prude dans la virtualité où le contact physique devient un problème. Non mais c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des
un basculement
à la fois prude et d'un côté effectivement très prude, mais
merci
de l'autre
Anaïs pour cette étude
qui interdit finalement le rapport physique.
Oh, combien intéressante sur cette jeunesse qui nous inquiète. Tiens, mais la jeunesse, justement, retraite, hein. dans un instant, les abayas à l'école, on en fait beaucoup, à votre avis, sur cette histoire? C'est juste un effet de mode ou c'est une véritable atteinte à la laïcité? À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.